Let's go, c'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, 471e émission, et une émission un peu spéciale puisque sous le parrainage d'une de nos comparses de radio, à savoir Juliana, notre amie brésilienne qui anime l'émission Nombril de Vénus, a eu l'occasion et on l'envie de rencontrer un dessinateur qu'on aime bien à Plume et Pinceau, à savoir le dénommé Luz, qui venait présenter en fait un album fort intéressant paru chez Albin Michel, dont vous avez sans doute entendu parler, par sa thématique audacieuse, Testo-Terror. Le pitch, c'est qu'un virus fait chuter le taux de testostérone des hommes, et bien évidemment, la panique se répand sur Terre, la masculinité est en danger, et remise en question dans tous ses fondements. Et on va suivre Jean-Patrick, concessionneur automobile dans une zone d'activité, vraiment le gars lambda qui justement contaminé par le virus va voir sa vision du monde changer et va s'interroger sur sa masculinité mais aussi sur sa paternité puisque en fait son fils rejoint une espèce de secte masculiniste lancée par Joe le coach sportif. Va-t-il réussir à sauver son fils? Va-t-il découvrir la part de féminité qu'il cache en lui? Que vient faire le chien champion là-dedans? Tout ça est abordé dans cette interview réalisée donc par Juliana, qu'elle a bien voulu nous prêter et que l'on va pouvoir vous faire écouter. Tout ça agrémenté d'une bande son musicale inspirée par Luz, voire pour l'un des morceaux carrément évoqué par Monsieur Luz. Monsieur Luz, Testo-Terror, Albin Michel, c'est parti. Merci à toi encore Juliana.
Disease, but control, room. Don't be nice about it. Just spit it back. Why don't you be mature about it in your gray realm coats? Off world, what up? The joke. Violent food descends over you. Off of, what of, the joke. What of, off of, the joke. The joke, 5 years in a PC camp. Multicolored sweets in bottom of white sweet pack. The realization burns into my back. The joke, 5 years in a PC camp. The joke. Food descends over you. The joke. The joke. 5 years in a PC camp. The joke. 5 years in a PC camp. The joke. 5 years in a PC camp.
Comme on dit, merci.
On va essayer.
Bonjour Luz.
Bonjour, pour l'interview fleuve ou rivière, on ne sait pas, ou rue, une interview rue en fait.
Eh bien ici aujourd'hui vous êtes venu aussi parce que votre bande dessinée vient de sortir le 11 octobre, c'est Testo-Terror.
Oui, c'est ça, ouais, c'est une bande dessinée qui fait 1 kilo. J'aime bien dire ça parce que en fait quand on dessine sur des pages, on oublie complètement même le nombre de pages, on oublie complètement le travail. On est tellement dans le travail qu'on oublie le travail. Et quand on a un bouquin en main, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose qui sort de vous. C'est un travail accompli presque par quelqu'un d'autre. Et peut-être que même, finalement, c'est un travail accompli par quelqu'un d'autre. Oui et non, parce que là, peut-être que je me retrouve encore plus que dans d'autres livres que j'ai fait récemment. Aussi parce que je me reconnecte à un auteur satirique, un auteur comique. Ça me reconnecte avec ce que j'ai toujours été un peu comme dessinateur, c'est-à-dire un dessinateur qui raconte des histoires et qui dit des conneries aussi. Voilà.
Cette bande dessinée qui vient de paraître donc chez Albin Michel est une presque bande dessinée un peu prémonitoire, non? Cette histoire d'épidémie, vous avez pensé quand même avant que nous vivions la nôtre de Covid?
Oui, c'est une histoire d'épidémie d'un homme qui, enfin, de tout un, pas plus qu'un homme, c'est une histoire d'un monde, un autre monde qui tout d'un coup serait sujet à une épidémie qui ferait baisser la testostérone des hommes. Et c'est une histoire que j'avais en tête avant le Covid. Effectivement, les éléments que j'ai croisés pendant le Covid ont été finalement des éléments scénaristiques que j'ai pu mettre dans le livre, que ce soit d'un côté l'hystérie complotiste, la panique, certaines absurdités que l'on a pu connaître dans la tête des gens, de vos voisins, de vous-même d'ailleurs peut-être.
Comme les courses par exemple.
Comme les courses, comme le fait d'être tout d'un coup complètement paniqué au point qu'il n'y a plus du tout de PQ dans les hypermarchés. Moi j'ai croisé un mec qui était plutôt un mal alpha et qui pris de panique, qui a fait pour la première fois de sa vie des courses. En tout cas pour la première fois de sa vie d'homme en couple et avec un enfant des courses. Et qui a ramené tout d'un coup que des choses absolument essentielles dans sa vision de la famille, c'est-à-dire sa vision de la famille très auto-centrée sur lui-même, à savoir des cubis de rosé, du saucisson, des chips, de la purée en poudre. Et je me suis dit, merde, alors ça, j'y avais pas pensé. Et je vais le mettre dans mon bouquin. Je dirais pas merci le Covid, hein, parce que personne n'a envie de remercier le Covid. Mais je remercie en tout cas ce personnage qui était un homme que je connais et qui est devenu finalement un personnage de ma bande dessinée. Mais il y a aussi un truc, peut-être que c'est un bouquin prémonitoire sur peut-être autre chose. C'est que quand je l'ai fait, je me suis dit je vais travailler sur la masculinité, je vais travailler sur le mythe de la virilité, quelque chose qui m'intéresse. Mais la déconstruction des hommes, tout ça, le temps que je me mette en route pour le faire, sachant que j'étais en train de travailler sur Vernon Subutex, tome 1, tome 2, donc en tout 760 pages, donc il y avait pas mal de boulot. Et je me suis dit, le temps de sortir le bouquin, le sujet va être obsolète, le sujet ne va plus être au cœur des débats. Peut-être que c'est bon, on aura suffisamment avancé, il y aurait eu suffisamment de bouquins qui ont été faits par les hommes, sur les hommes. Et en fait, non, pas tant que ça. Pas du tout, même. Enfin, il y a des podcasts, il y a des one-man shows qui sont faits par des hommes qui déconstruisent en tout cas le mythe de la virilité. Ça existe. Mais finalement, les étals de librairie sur l'égalité homme-femme, par exemple, il est toujours, pas monopolisé, parce que c'est pas une volonté de monopoliser. Ce sont beaucoup les femmes qui font les bouquins sur l'égalité homme-femme, et rarement les hommes. Il y a quand même un petit problème.
Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a quand même un petit problème. C'est comme si l'égalité homme-femme était devenue une espèce de charge militante laissée aux femmes par les hommes. Ça ne veut pas dire que des hommes ne se sentent pas impliqués, mais moi j'ai toujours eu du mal à comprendre que les hommes ne comprennent pas que le combat féministe était un combat qui les concerne. Donc qui était un combat dont on devait s'emparer aussi. J'ai pas l'impression que c'est encore vraiment le cas. Comme si, allez-y les filles, oui, je suis avec vous, je suis d'accord avec vous, mais c'est vous qui allez lutter à ma place. Et je dirais que je suis pas exempt de cette...
De première strate de pensée.
Peut-être. De cette première strate de pensée, exactement, parce que au bout du compte, quand j'y réfléchis, si j'y réfléchis bien, moi j'ai été très proche des fémènes, mais aussi dans un peu comme ce qu'on appelle un fémène man, un homme de Londres, moi qui les aide à faire des dessins, etc., à faire des trucs. Mais quelque part, même aussi dans ma tête, il y avait un truc genre, c'est cool, vous faites le boulot qu'il faut faire. Mais quelque part, moi, je vous aide, mais je vous aide finalement. Qu'est-ce que je fais, moi, dans mon espace militant pour vous aider? Alors, effectivement, je peux faire des dessins, dessiner des logos femmes sur les seins des copines, etc. Ça, je pouvais le faire. Mais peut-être que ça ne suffit pas aussi d'être derrière les copines féministes. Je pense qu'il doit y avoir un certain épuisement. Même, je le constate, un certain épuisement chez les meufs féministes à régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les livres, dans les blogs, sur les sites, de répéter sempiternellement qu'il y a un problème avec le patriarcat, par exemple, ou qu'il y a un problème avec une espèce de backlash, par exemple, qu'il peut y avoir en ce moment, c'est après MeToo. Je pense que c'est devenu usant de voir que les choses changent aussi peu du côté des hommes, d'une majorité des hommes, voire même qu'au contraire, il y a une espèce d'étrange victimisation de certains hommes, ou qu'il y a un langage tout d'un coup victimaire de certains hommes plutôt masculinistes qui apparaît pour dire c'est à notre tour d'être victime, c'est à notre tour de se réclamer en tout cas de la victimisation, c'est à notre tour de dire on est victime de l'égalité homme-femme.
Franchement, ça c'est pas quelque chose qui est aussi surprenante. Les hommes, ils ont aussi cette capacité à tourner les choses à leur faveur au moment opportun.
Alors ça, je sais pas trop. C'est pareil, les hommes, on peut pas non plus complètement essentialiser, mais les hommes qui ont une voix médiatique, on les entend très fortement, et c'est le truc qui me fait vraiment chier, c'est que les hommes qui parlent de la masculinité, parce que je pense que c'est un vrai débat, et c'est le prochain débat après le féminisme, c'est le masculisme, pas forcément le masculinisme, comment on parle du masculin, quelle place le masculin a dans notre société qui est en train d'évoluer, voilà. Et malheureusement, ceux qui pensent cette place du masculin, ce sont les masculinistes, c'est finalement au bout du compte l'extrême droite. Comme si, finalement, à gauche, il y avait ce truc, quelque part, de la bienveillance qui est « Allez-y, les filles, on est avec vous, super », mais il n'y a pas de...
Ça ne s'empare pas du sujet, voilà.
Mmh. Ça ne s'empare pas du sujet. Je ne dis pas que... Je n'ai pas fait un livre étendard. Je ne suis pas un porte-drapeau. J'aime pas les drapeaux.
J'ai jamais aimé les drapeaux. Il faut pas oublier que se marre quand même avec vous.
Oui. Moi, ce que je propose, c'est quand même une espèce de... Une grande caricature de la panique des hommes actuels. Aussi en interrogeant peut-être qu'est-ce qui reste de la virilité quand on enlève l'hormone de la testostérone, qu'est-ce qui reste de la virilité quand on se débarrasse de l'alibi masculin. Voilà. Mmh. L'alibi masculin étant voilà, j'ai des hormones, je suis comme si, je suis comme ça, c'est comme ça, ça a toujours été j'ai des pulsions, comme tous les hommes, je viens de Mars et vous êtes Vénus, patati patata, ce truc là. Et il fallait que je fasse une caricature de ça. Il fallait que j'aille loin dans la caricature, il fallait que j'aille loin dans le comique. Peut-être aussi pour que on puise là-dedans quelque chose d'un peu proche. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte quand j'étais gamin, je caricaturais les gens de ma famille et je faisais quasiment exactement le même boulot que maintenant, sauf que c'était pas un boulot, c'était juste pour éviter de me faire chier dans les dîners de famille. Et je dessinais donc les hommes qui étaient à l'apéritif en train de cloper et de bouffer des chips. Et les femmes qui étaient en train de ranger, en train de mais cloper aussi, hein, parce que moi je suis dans les années 70, 80, donc les femmes clopaient. Enfin, je veux dire, ça clope en cuisine, et puis il y a une espèce de séparation des genres comme une espèce de mur invisible. Et ce mur invisible, je crois que j'ai commencé à le dessiner quand j'étais petit. Je m'étais rendu compte petit que quand on dessinait les gens et qu'on mettait dans leur bouche ce qu'ils avaient dit, souvent ils disaient mais moi j'ai pas dit ça. C'est pas moi, j'ai pas dit ça. Mais sauf que autour, les gens savent que c'est vraiment lui, que c'est vraiment lui ou elle qui a dit cette chose. C'est-à-dire, c'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire, ce bouquin, il est aussi dans une certaine manière un moyen de témoigner de manière extravagante, oui, d'une société qui est aussi dans un grand théâtre, qui est aussi drapée dans énormément de fantasmes. Et en allant loin dans la caricature, on peut y déceler peut-être des exemples de caricatures qui sont autour de nous, voilà. Ou des exemples de caricatures qui sont en nous aussi. Aussi parce que là-dedans, je parle des hommes, mais je parle aussi un petit peu des femmes.
Ah oui, non, mais c'est trop bien. Il y a effectivement toute une part, et on va découvrir que les femmes, elles sont absolument volontaires de prendre une place possible. Et lorsque cela est possible sur un laps de temps dans le livre, on voit que la douceur, il y a une certaine façon, comment dire, très respectueuse dans la société est possible, même si, voilà, on peut encore casser un ongle ou que sais-je, parce qu'on démarre dans le déménagement ou quoi. Mmh. Mais c'est quelque chose de plus doux, c'est-à-dire qu'en enlevant cette part de testostérone de cette épidémie qui est la cause de cela, eh bien, on découvre un certain apaisement.
Mais, oui, en fait, moi, je me suis aussi inspiré d'un truc assez simple. Je me suis inspiré de ce qui s'est passé pendant la guerre de 14. Wow. C'est-à-dire que pendant la guerre de 14, il y a un truc, c'est que alors qu'on sortait d'un 19e siècle où encore les répartitions, en tout cas de l'ordre du travail, étaient quand même encore très genrées. Tout d'un coup, la guerre de 14, les hommes au front, les femmes ont été obligées de faire l'intendance de l'arrière. Et une fois que la guerre est finie, que les hommes sont revenus, et pour la plupart blessés, déprimés, détruits par la guerre, elles sont restées au travail. Parce qu'elles n'ont plus voulu quitter l'espace. Et quelque part, il y a eu des débats sur le fait, renvoyons dans les années 20, renvoyons les femmes au travail. Sauf qu'il y avait quelque chose qui était déjà passé, en fait. Mmh. C'est pour ça qu'il y a eu une espèce de moment aussi, ça a été aussi un moment charnière, c'est-à-dire que bah, si les femmes, finalement, ont été, finalement, c'est une des premières charges mentales générales qui a été faite au moment de la guerre de 14, c'est-à-dire tout à coup, bah, il a fallu vraiment s'occuper du pays. Et elles ont commencé à rentrer dans le monde, à faire exploser finalement la frontière qui était entre eux et les hommes. Finalement, elles ont fait exploser cette frontière patriarcale, déjà. Et là, je me suis dit, c'était marrant d'imaginer dans d'autres circonstances que tout d'un coup, effectivement, les hommes... Parce que c'est vrai, si on perd sa testostérone de manière brutale, on est déprimé, on a des idées suicidaires, on perd de la force musculaire, etc., etc. Et donc, dans mon scénario, effectivement, les hommes sont moins capables, moins compétents d'assurer, en tout cas, ce qu'ils imaginaient qu'ils étaient en train d'assurer avant, et en tout cas d'assurer leur place dans la société. Et du coup... tout d'un coup, charge mentale presque par souci, pas forcément par souci de maintenir la société dans l'état dans lequel elle était avant, mais aussi parce qu'il faut bien remplacer les hommes qui sont plus compétents. Les femmes reprennent une autre place. Ponctuellement, le temps qu'ils se remettent en selle, qu'ils puissent trouver le moral. Et finalement, tout d'un coup, paf. La société devient un peu plus calme, un peu plus apaisée. Aussi parce que les hommes perdent un petit peu leur testostérone. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais tout d'un coup...
C'est une idée.
Peut-être tout d'un coup, il y a moins de gens qui disent espèce d'enculé quand ils sont en train de conduire une voiture. Tout d'un coup, il y a moins d'esprit de compétition. Il y a moins cette bagarre intrasexuelle qui existe, à mon avis, qui existe entre les hommes, que l'on fait passer pour de la compétence économique ou de l'histoire managériale, ou etc. Tout d'un coup, il y a un moment donné, vers la fin du livre, c'est pas forcément un grand... je dévoile pas forcément la fin, mais à un moment donné, il y a un débat, c'est-à-dire qu'il y a un débat entre deux hommes politiques ou deux débatteurs, un homme et une femme, et lui se désole du fait que la police est tout d'un coup devenue un métier du care. Et moi, j'aime bien cette idée-là. J'aime bien l'idée que, tout d'un coup, s'occuper de la société, y compris de la sécurité, rentre dans un autre paradigme qui serait non pas un paradigme de la force et de la puissance, mais plutôt un paradigme du care, qui n'est pas forcément plus féminin que ça. Mais si les femmes s'occupent du care, c'est aussi parce qu'on les a poussées à travailler sur ce domaine-là. Et tout d'un coup, d'imaginer que, finalement, il y a un petit peu moins d'obsession, en tout cas, liée à la puissance, liée à la force, liée à la compétition, et que peut-être ça monte, qui peut aller vers quelque chose de mieux. Ou pas, parce que ça, c'est la fin du livre.
Oui.
C'est la fin du livre, et la fin, elle est ouverte. Et donc, je sais pas, peut-être qu'il y aura un tome 2 qui va s'appeler, je sais pas, Progestéror, par exemple.
groupe de femmes Angels Aid, qui est représenté par des femmes avec des motos roses, les clowns qui font vraiment une action solidaire de bienveillance, de care justement. Et pour autant, elles sont aussi des femmes qui ont des histoires, pour certaines très cabossées, etc. Votre personnage principal, en les côtoyant, va aussi mieux comprendre sa propre possibilité de vivre cette chute de testostérone pour lui d'une autre façon, d'une façon plus positive que la plupart des autres personnes qui prennent ça très mal et qui vont faire de la résistance. On va y arriver. Et il y a une autre chose aussi, c'est, je trouve ça super parce que Jean-Pat, votre personnage principal, c'est un homme qui travaille, il est commercial, il a sa famille, il a une femme, trois enfants, deux jumeaux, la petite jumelle, elle reçoit systématiquement des Barbie en cadeau. Mais la façon comme vous l'avez dessinée, franchement, on n'a pas du tout l'impression qu'elle est satisfaite.
Elle n'est pas satisfaite du tout. J'ai mis dans l'histoire une famille avec aussi des jumeaux. C'est-à-dire, du coup, fille, garçon, même âge. Et c'est un constat qu'on peut faire aussi quand on amène son enfant à l'école. Moi, j'ai une fille. Et j'ai remarqué, en fait, très, très jeune, les choses qu'on accepte des garçons et les choses qu'on propose aux filles. J'ai toujours été quand même surpris dans la, comment on s'appelle ça, le kindergarten, dans le jardin pour enfants, à quel point on laisse les garçons se défouler et se salir, se lâcher les chevaux sans les retenir, enfin sans les brider. Et je me suis rendu compte aussi, puisque je suis devenu un père aussi, un parent, j'ai fréquenté d'autres parents, et j'ai remarqué à quel point le genre, les cadeaux étaient restés quand même des choses très genrées, alors que effectivement, la société a changé, les marques essayent de changer un petit peu les choses... On a des films de marques qui font semblant de changer les choses. Par exemple, le film Barbie, c'est une absurdité totale. C'est un pur négationnisme, à mon avis. C'est un pur négationnisme féministe, dans le sens où, tout d'un coup, c'est la grande publicité pour Barbie. Mais moi, j'ai été le voir. J'ai été le voir en famille. Et j'étais surpris de débats autour du film, disant, tiens, c'est peut-être pas si mal, parce qu'il y a peut-être un peu un discours féministe qui peut passer. Mais c'est un film publicitaire qui est basé sur du mensonge, qui est un pur mensonge, c'est-à-dire qui laisse imaginer dès les premières images que Barbie a proposé des idéaux féminins. Et c'est vrai que dans le film, on voit des femmes qui sont à la Cour suprême, etc. Il n'y a jamais eu une Barbie qui est juge à la Cour suprême, par exemple. La plupart des Barbies qui sont en magasin, c'est des Barbies qui font certaines, il y en a des un peu plus rock, maintenant un peu plus pop, etc. Mais ça reste toujours une espèce de femme longiligne, etc. Et même la Barbie, soi-disant fat qui est en magasin, elle ne ressemble pas à la Barbie qui est dans le film, qui est effectivement une femme très grosse, qui est représentative aussi de ce que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Mais la Barbie, entre guillemets, grosse en magasin, c'est pas du tout ça. Donc il y a un espèce de gros mensonge. Et en plus, le truc qui est assez marrant, je sais pas pourquoi je parle de film Barbie tout d'un coup, mais peu importe, j'avais aussi envie de dire quelque chose, peut-être au fond de tout ça. C'est que, aussi, je sais pas si vous avez remarqué, le film Barbie, il est quand même basé sur le rapport avec Ken. Et moi, ça m'a vachement choqué d'imaginer tous ces débats, d'entendre tous ces débats sur un film féministe et puis de voir les affiches où finalement il y avait Ken qui était là. C'est-à-dire qu'il y avait du male bombing là-dedans. C'est-à-dire que pour vendre un film sur le féministe, il fallait mettre un mec. Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu curieux quand même dans cette histoire ? Alors, évidemment, moi, c'est pas une réponse à Barbie. Moi, j'ai fait le bouquin. Je pensais même pas qu'un jour il y aurait un film sur Barbie. Mais c'est vrai que dans mon bouquin, mon personnage, au départ, et nous-mêmes en tant que lecteurs ou lectrices, on est dans son male gaze. Voilà. Il ne voit plutôt que ses potes, que ça, son père, et il voit un peu sa famille, mais il ne se rend pas forcément très compte de ce qu'il y a autour de lui. À faire mesure que son champ de vision s'élargit, son phallocentrisme diminue, son champ de vision s'élargit, il se rend compte qu'il y a peut-être de plus en plus de femmes autour de lui, et parfois des femmes un peu étranges, qui sont des femmes mécaniciennes dans son propre travail, qui sont aussi des motardes, donc qui portent quelque part une image de la virilité qui est une virilité qui serait a priori masculine, qui serait peut-être même lesbienne, et qui en plus a, voilà, qui a un passé d'individu, pas forcément un passé de femme, mais qui a un passé d'individu avec ses complexités, etc. Et qui en plus sont des clowns. Alors bon, c'est vrai que je sors de Verdun Subutex avec des femmes motardes aussi, parce qu'il y a la hyène qui était une motarde que j'aimais bien dessiner. Je crois que j'avais du mal à me séparer de l'idée qu'il fallait que j'arrête de dessiner des femmes à moto. Je pense que j'aime bien l'idée de dessiner des meufs à moto. En fait, effectivement, il y a à un moment donné, lui, à force de voir un autre environnement, aussi, ils se sont déjà plus autorisés à parler. Et il, comment dire, quitte d'une certaine manière un petit peu la fraternité fantasmée pour côtoyer une forme de sororité qui finalement n'est pas forcément un espace clos et qui est un espace où lui, il peut parler de lui-même aussi. Et donc il se rend compte que bah, ça peut être cool aussi de sortir de son milieu de types qui font des barbecues et ils boivent du rosé pour aller bouffer du tofu très pimenté avec des motardes lesbiennes.
Et, bah, respect. Donc, justement, on a ce moment savoureux où cette Mecca, hein, cette fille, elle est en train de manger son tofu ou sa mozza pleine de piment. Et il y a le Joe, là, qui est un personnage dans votre livre qui est absolument répugnant par moments. Hein. Franchement, c'est le professeur donc, de musculation, c'est le gourou viril, en fait. Hein. Il devient carrément un gourou, le mec. Et lui, il y avale donc, cette petite préparation. Il se fait vraiment surprendre.
Oui, c'est un personnage intéressant, Joe, parce que Joe, c'est un coach sportif qui va devenir finalement après gourou d'une secte masculiniste dans laquelle mon héros va se retrouver un peu malgré lui. Parce que même si Jean-Pat il est pas déconstruit, il est pas non plus complètement comment dire, il est pas si
il est se pas cherche,
il se cherche quoi, c'est, il se cherche, c'est un, on peut être un homme de 40 ans ou 45 ans et se chercher quand même. Et au départ, avant même de faire Testosterone, j'avais l'idée de faire un bouquin sur les coachs de vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je déteste dans la vie, c'est les injonctions, y compris les injonctions au bonheur. Je me disais, il faut que je travaille là-dessus. Je vais essayer de faire un bouquin là-dessus, en tout cas, qui va utiliser ce truc-là. Et en travaillant sur les coachs de vie, ben, j'ai dérivé un petit peu sur les coachs sportifs et j'ai dérivé sur aussi les injonctions viriles. Je dis, bah oui, mais attends, la première des injonctions qu'on rencontre quand on est un gamin, quand on est un garçon, y compris quand on est un garçon à lunettes, et surtout quand on vit dans un HLM, c'est qu'il faut sociabiliser avec les autres garçons, et pour ça, ça passe par le sport. Et chez moi, ça passait par le foot. Et ça passe par ce truc assez étrange qui est que quand on fait une équipe de foot, il faut que tout le monde, a priori, soit bon. Un gardien de but, par exemple, il faut qu'il soit quand même très compétent, très, 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 très bon. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Hein, c'est toujours le cas. Si on fait des équipes, celui qui est le plus frêle, le moins homme, le moins viril, celui qui porte des lunettes, par exemple, comme moi, on va le mettre dans les buts. Ça va être le dernier choisi, évidemment, et on va le mettre dans les buts. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on va le mettre dans les buts? Parce que tous les autres veulent taper dans le ballon. La démonstration de la vérité, c'est taper dans le ballon. Est-ce que c'est lié au fait à l'hormone, parce qu'on aurait une hormone qui donne envie de taper dans le ballon? Ou est-ce que c'est lié, finalement, à quelque chose qui est plus culturel ou plus comportemental, plus environnemental, qui serait lié au fait qu'on demande aux garçons de taper dans le ballon, en tout cas d'exprimer en tout cas leurs émotions à travers le fait de violenter une petite baballe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi j'ai pris plein de ballons dans la gueule. Ça a peut-être été un moment, ça a peut-être été la première rencontre que j'ai eue avec le sentiment de me sentir étranger au monde des hommes. Je ne dis pas que j'ai pas, ouais, j'ai travaillé dans un journal où il y avait quasiment que des mecs. Je ne dis pas que je suis en retrait. Je ne dis pas que j'ai toujours été un homme féministe. Ça serait complètement con de ma part parce que déjà, féministe, c'est presque un mot qui arrive. Évidemment, il y a Simone de Beauvoir avant, mais dans la culture populaire, le féminisme, ça arrive presque il y a 20 ou 30 ans maxi. C'est pas quelque chose de très commun dans le langage actuel. Au fil des ans, malheureusement, j'ai développé un certain androscepticisme que je mets vraiment en opposition avec la misandrie, qui est tout aussi stupide que la misogynie, à mon avis. Mais androscepticisme dans le sens... Bon, ça, c'est un mot que j'ai inventé. Hein, c'est un néologisme que j'ai essayé de constituer comme ça. Scepticisme, c'est-à-dire être en réserve, d'avoir une certaine réserve par rapport andros, par rapport au monde des hommes. Et par rapport au fait de... moi, je ne me sens pas plus rassuré dans la vie de tous les jours si je croise un groupe d'hommes dans la rue. Si je croise un groupe de femmes dans la rue, j'ai aucun problème. Si je croise un groupe d'hommes dans la rue, je ne sais pas oui ou non si je suis rassuré ou pas. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas systématique. C'est une manière de dire aussi aux meufs, c'est pas si simple en fait de vivre au milieu des hommes, mais c'est pas simple non plus pour un homme qui n'est pas forcément, qui ne se sent pas attiré ni par le foot, ni par le fait d'être un supporter de foot, qui ne se sent pas attiré par...
Faire impérativement soi-même le barbecue.
De faire impérativement soi-même le barbecue, c'est clair, moi ça m'a toujours... En fait, il y a un truc assez marrant, c'est que je me suis rendu compte aussi... au fil des ans, que même maintenant, s'il y a un barbecue, et ça c'est marrant, hein, Sandrine Rousseau, elle a pointé du doigt vraiment quelque chose qui est très très juste, si on fait un barbecue, tout d'un coup, il y a un partage géographique. Tout d'un coup, tu te retrouves quand même, les mecs sont quand même amenés à se retrouver autour du feu, dans une logique très préhistorique. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Et puis, les meufs sont un peu à part. C'est rare, moi j'ai rarement vu quand même une meuf faire un barbecue. Alors, il y en a, évidemment, j'en vois une qui lève la main, là, ça arrive, bien sûr.
Personne n'approche de mon barbecue.
Ah, ok, d'accord, très bien. Très bien, ok, très bien, très bien, respect.
Je suis la reine du barbecue.
D'accord. Mais alors, plus au merguez, chipot, ou alors...
Moi, j'ai fait n'importe quoi dans le barbecue, okay, y compris beaucoup bien. De légumes et des fruits.
Ah oui, bah ça, voilà, très bien, bravo. Et du coup, autour de toi, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou plus de femmes quand tu fais le barbecue?
À vrai dire, avant, au début, quand le barbecue il est arrivé à la maison, bah déjà mon mari était en panique parce qu'il m'a dit « Mais moi, le barbecue, moi je sais pas, j'ai pas la culture. » Moi j'ai dit « Non, mais quand j'étais petite, j'étais vraiment stomaquée de voir que tous les mecs, ils étaient autour du barbecue avec une caipirinha, tu vois, et que les nanas, elles étaient en train de trémousser dans la cuisine, faire les trucs, gérer les gamins, etc. Et que les mecs dehors, ils rigolaient, ils commençaient même à manger la viande avant les autres pour, soi-disant, la goûter, tandis que les nanas, elles attendaient le bon vouloir de quand est-ce que les mecs allaient être prêts. Et en fait, au bout du bout, ils étaient déjà bien bourrés, tu vois. Donc, ils prenaient vraiment leur temps et tout le monde était affamé. J'ai toujours trouvé ça extrêmement injuste. Et je me suis dit, le jour où j'aurai une maison où je peux avoir un barbecue, il n'y a pas d'un mec ça. Qui va approcher de son nombril de mon barbecue. D'accord. Au début, donc, il y a eu quelques tentatives à des copains qui passent et tout. Ah, si tu veux, je vais t'aider le feu et tout. Et puis, très rapidement, j'ai montré mes creux. Et finalement, aujourd'hui, autour de mon barbecue, c'est souvent les nanas avec un petit rosé, parce que quand on fait un barbecue, normalement, il fait quand même assez bon. Et bien là, on papote et c'est moi qui gère. Alors, certaines n'aiment pas trop la fumée, hein. Ça, il faut quand même bien réaliser que c'est pas toujours très agréable, mais le barbecue, c'est aussi un truc de meuf, quoi.
Ah oui, bah bravo. Enfin, c'est... Non, mais ce que je constate, c'est aussi que ton mec, il s'est retrouvé un petit peu
Absolument.
Dans la même position que moi.
Tout à fait.
Et aussi, il a ce constat, genre, oh là là. Alors après, il y a aussi ce truc-là, c'est que du coup, moi, j'aime pas forcément faire le barbecue parce que j'aime pas forcément me retrouver qu'avec des mecs, en fait. Mais j'aime bien la compagnie des mecs comme j'aime bien la compagnie des femmes. Mais quelque part, j'aime bien la compagnie des êtres humains, j'aime bien la compagnie des gens avec qui on a envie de discuter. J'aime bien la compagnie des gens avec qui on est, avec qui on peut partager des choses, avec qui on peut parler bouquins, par exemple, avec qui on peut parler BD, avec qui on peut parler musique.
voudrais savoir qu'est-ce que tu as contre le limoncello.
Ah oui, non, ça c'est juste à l'intérieur, mais c'est juste le limoncello, c'est presque peut-être un espace inconscient de sa féminité de boire du limoncello, je pense.
Non,
non, mais c'est juste, j'en sais rien. Non, non, je sais pas, c'est juste parce que dans mon scénario, en fait, les mecs se retrouvent dans la zone d'activité commerciale et l'espace qui est toujours plus ou moins ouvert, c'est une pizzeria. Et en fait, le truc un peu le plus fort qu'ils aient, c'est effectivement, c'est pas du calva ou etc. C'est un limoncello. Et en fait, j'aime bien. Limoncello, c'est un peu comme les chiens dans les livres. Il faut toujours mettre, le mot limoncello parce que c'est quand même assez drôle. Limoncello et puis guacamole.
Ouais,
limoncello, guacamole et chien, ça c'est la trilogie des choses qu'il faut mettre dans une BD comique.
Il faut qu'on parle de Champion.
Ouais, bien sûr, en parlant de Champion. Champion, c'est un... Champion, alors vous savez... Attention, parce que Champion, c'est pas un chien au départ. Vous saurez ce que c'est. Au départ, c'est pas tout à fait un chien. À un moment donné, ne donnons pas son nom, mais à un moment donné, il y a un animal qui apparaît. Par hasard. Et cet animal, il est un petit peu... il apparaît dans la vie de Jean-Pat, mon personnage, comme un cheveu sur la soupe. Il n'avait pas d'animal domestique, ça ne l'intéressait pas plus que ça. Ça n'intéresse pas plus que ça, non pas parce qu'il n'aime pas la compagnie des animaux, parce que de toute façon, quelque part, il en fréquente beaucoup dans son entourage, mais c'est plutôt le fait que lui, on sait très bien, sa femme sait très bien que si jamais ils ont un chien, c'est elle qui va encore s'occuper du chien et qu'elle a déjà la charge mentale d'un adolescent et de deux jumeaux, que donc elle n'a pas forcément envie d'avoir un chien et lui s'en préoccupe pas. Et donc ça serait effectivement... c'est pas le genre de mec à ramasser les crottes. Mais de toute façon, à un moment donné, ça arrive. Et quelque part, je sais pas si vous avez déjà eu des animaux. Un animal, au début, c'est vraiment un animal. Un animal, c'est bourré de pulsions, c'est bourré de... C'est inattendu, en fait. C'est pas très raisonnable. Et alors que lui, il est en train de perdre sa testostérone, il accueille finalement dans son champ domestique un animal qui, lui, en est bourré, quoi. On est bourré, mais il en dégouline de partout. Ça suppure de son être de petit animal tout mignon, parce que apparemment ça va. Il est très mignon. Ouais. C'est un très mignon. Je pense que c'est un King Charles. Je me suis inspiré d'un King Charles que je connais bien. Et du coup, il va falloir qu'il vive avec. C'est-à-dire, lui, il vit avec moins de testostérone, mais il vit à côté d'un animal qui finalement, dont il jalouse les pulsions, quelque part. Mais à un moment donné, voilà, un chien qui est habité par ses pulsions, ça crée des dégâts. Voilà. Et la question, c'est, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir peut-être qu'il l'opère. Voilà. Et la question, c'est, voilà, est-ce qu'un homme est toujours obligatoirement habité par ses pulsions? Certains hommes, qui considèrent qu'ils ne sont habités que par leurs pulsions, à mon avis, font pas mal de dégâts. Mais je pense qu'on est quand même aussi des êtres un petit peu de raison, et qu'on peut... que le fait de dire, de justifier ses actes par le fait qu'on est habité par des pulsions masculines, c'est un alibi très fallacieux. Et que justement, il faut peut-être réfléchir à notre responsabilité et peut-être justement se défaire d'un certain mythe de la virilité qui est bâti sur l'idée de la pulsion. Sur l'idée de la pulsion de guerre, sur l'idée de la pulsion sexuelle, sur ces idées-là que l'on retrouve pas mal dans pas mal de représentations culturelles, que ce soit, ça peut être effectivement en musique, ça peut être aussi en littérature au moins, ça a existé, mais moins en littérature, allez savoir pourquoi. Dans la musique, ça existe aussi, hein, ça peut être, la posture rock ou la posture rap aussi est très, très héritée de ce truc-là. Après, il y a effectivement des différences. Hein,
Qu'est-ce que vous écoutez?
Ouais, qu'est-ce que j'écoute? Ouais. Ah, en ce moment, oula, c'est
très vaste.
C'est très très vaste, ouais, très très vaste. Et non, malheureusement, alors j'écoute très peu de rap. Enfin, si, j'écoute. Ça me fait mal. J'écoute beaucoup Eddie De Preto. Grâce à ma fille de 8 ans, et qui est à fond, quoi, Eddie De Preto. Et en même temps, je trouve ça absolument dingue parce que Eddie De Preto, c'est pas tout à fait du rap non plus. Il y a une petite posture rap, mais il y a des choses assez. Assez dingue. Il parle de la virilité et moi je trouve ça très marrant d'imaginer que ma fille elle a comme modèle aussi culturel, voilà, un homme gay qui parle de ses errances nocturnes, de ses amours ou de ses désamours. Et elle est en train de, voilà, de fabriquer son caractère, ses émotions aussi avec des modèles qui sont des modèles qui sont pas forcément des modèles déconstruits. Je suis même pas sûr que le terme construit ou déconstruit soit si valable que ça, mais en tout cas des modèles qui sont fluides en fait. Moi, je ne me suis pas construit avec des modèles si fluides que ça. J'ai eu la chance quand même d'avoir un modèle plutôt fluide, mais après, on ne parlait pas de fluidité à l'époque. On va dire complexe. Moi, c'était David Bowie, clairement. Mais parce que j'écoutais ça à la maison. Mais on savait. Mais après, moi, j'ai découvert
David. Ton père.
Mon père écoutait David Bowie. Après, moi, j'ai découvert David Bowie d'abord par Let's Dance. Let's Dance, qui est la vision que Bowie a donnée de lui-même, une vision, comment dire, plus populaire, plus variété, plus hétérosexuelle aussi, qui est le premier album qui a marché aussi mondialement, qui a été finalement son succès absolu, qui a permis en tout cas à pas mal de gens de reconnaître sa place pop dans la musique.
La place,
ouais, dans la place.
Yeah.
Est-ce qu'on peut terminer cette interview?
Ouais.
Juste parler de votre passion de dessin, là. Enfin, voilà, c'est votre vie, le dessin, aujourd'hui. Comment vous vous sentez?
Ah ben, en fait, c'est marrant parce que, ben pour être très clair, puisqu'on parle d'un... Moi, j'ai deux passions, en fait. J'ai vraiment deux passions. Enfin, c'est pas vraiment des passions, c'est deux respirations, que sont le dessin et la musique. Et à un moment donné, dans ma vie, j'ai cru que je pourrais plus dessiner, mais vraiment pas. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 3 jours. Mais ça a duré 3 jours où vraiment je pensais que je pouvais plus du tout dessiner. Je n'allais pas pouvoir revenir là-dessus. Et finalement, c'est revenu. Et la musique, ça a disparu pendant plusieurs années. Ça a mis du temps à revenir vraiment. Et ce truc aussi assez absurde, c'est que je vivais entouré de disques, de vinyles, de CD, tout ça. Et je ne savais pas... j'écoutais de la musique, mais je l'entendais plus que je l'écoutais. Et à un moment donné, c'est revenu. Ça a mis du temps. C'est revenu peut-être parce que aussi j'ai fait des albums qui ont parlé de musique, des albums qui ont parlé de la communion liée à la musique. Voilà, j'ai en particulier Vernon Subutex. Cette adaptation de Dépente a été aussi un moyen de se reconnecter avec parfois une espèce d'obsession. Voilà, le premier album de Vernon Subutex, j'ai écouté tout Zappa. Deuxième album de Vernon Subutex, j'ai écouté tout Coil. Et Testosterone, tout d'un coup, là, le truc s'est complètement ouvert. Il y a une artiste que j'ai écoutée sur les trois qui s'appelle Lingua Ignota, que je conseille fortement d'écouter, qui est une américaine qui a habité du côté de Providence et qui a vécu avec un homme qui l'a violenté, qui a abusé d'elle, et je pense qu'elle a fait des albums pour faire un cri de rébellion, des cris d'expression pour expulser ce qu'elle avait dans la tête, dans le corps. C'est du métal, en fait. ça serait un mélange entre du métal norvégien. Est-ce que c'est du death metal? Peut-être bien du death metal. Plus Kate Bush. C'est démentiel. C'est démentiel. Et en fait, c'était pas mal. C'était pas mal d'avoir ça très régulièrement dans la fabrication de ces trois albums qui ont suivi. Maintenant, elle s'appelle Révérend Kate Aether. Allez voir Lingua Ignota, vous verrez. Là, elle sort un disque prochainement. Et je pense que c'était pas mal de se dire à la réflexion, après coup, que le cri d'une femme aurait été le fil conducteur des trois livres qui m'ont amené à la musique. Et qui m'ont amené jusqu'ici, d'ailleurs. C'est qu'à vous discuter ensemble.
Merci beaucoup, Luce.
De rien. À très bientôt.
Ouais, à très bientôt.
Le nombril de Vénus sur Canal B.
You ready? Sorry. We'll be right back.
Réfléchir, une interview fleuve, mais plein d'intelligence. Décidément, Juliana, tu es la plus forte. Et je te remercie encore. Et Roger se joint à moi pour te remercier de nous avoir permis de partager à l'antenne cette interview de Monsieur Louis, donc pour Testostérore, paru chez Albin Michel. À la semaine prochaine. Bonne lecture, tant qu'on a le droit.